Ah oui, il y a des secondes qui défilent, c'est moi. Ouais, on coupe, ils couperont ceux qui font la régie.
Voilà, Marc, si tu peux nous mettre ensuite. Voilà, ça, tu passes. Et voilà, merci. Voilà, frères et sœurs, il est bon d'être réunis ce matin. Plusieurs fois dans la prière, dans ce que nous avons dit ce matin, nous avons évoqué l'état d'un monde compliqué dans lequel nous vivons. Et dans ce cadre-là, notre communauté chrétienne pourrait apparaître un peu comme un oasis, comme une oasis, pardon, une bienfaisante oasis au cœur de ce monde troublé et assoiffé, qui ne sait d'ailleurs pas toujours bien de quoi il est assoiffé. Et la longue période de pandémie a révélé, nous le savons bien, des solitudes, des angoisses, des désespoirs, servi un peu de révélateur aussi des fragilités du monde, de la société dans laquelle nous vivons. Les chrétiens que nous sommes, tous les chrétiens avaient la possibilité de s'arrimer à l'ancre de leur espérance en Christ, Christ à venir du monde. L'ont-ils fait avec bonheur? Nous sommes-nous vraiment reposés sur notre espérance en Christ? L'avons-nous fait aussi sans nous montrer orgueilleux, sans nous montrer un peu fiers d'une piété condescendante à l'égard des pauvres païens désemparés de nos sociétés? N'étions-nous pas aussi désemparés qu'eux parfois? Beaucoup parmi nous, voilà, chacun de nous pourrait probablement le dire, ont étrangement vécu pendant cette période les mêmes craintes que nos concitoyens. On a fait preuve parfois de naïveté, d'insouciance, d'irresponsabilité, ou que sais-je encore. Et tout cela nous rappelle, s'il en était besoin, que nous ne saurions prétendre être meilleurs ou plus forts que les autres. Il est important de s'en rendre compte. Alors la première épître de Jean déclare « Si nous disons « nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si nous disons « nous n'avons pas de péché, nous nous égarons. » Quand nos communautés bénéficient d'un certain rayonnement, et j'espère que c'est le cas pour la nôtre, je crois que ça peut être le cas, reconnaissons alors que cette lumière ne leur appartient pas. Nous témoignons de Jésus-Christ. Nous témoignons de Jésus, c'est tout. C'est notre seule raison d'exister. C'est notre seule raison d'être au monde en tant que chrétien. Nous témoignons de Jésus. Et nous ne saurions avoir la prétention de faire davantage. Et surtout pas à nous prêcher nous-mêmes. Nos communautés révèlent simplement qu'une parole est semée dans le monde et que cette parole continue tant bien que mal, à faire son travail. Cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus, rappelons-le, n'est pas venu seulement pour des îlots éparpillés de bienheureux élus. Heureusement, vous vous rendez compte, s'il était seulement venu pour le petit nombre que nous sommes ce matin, son règne est pour tous. Il est venu offrir son salut à tous. J'aimerais que nous méditions, pour commencer ce matin, dans la première épître de Jean, tu vas nous le mettre Marc s'il te plaît, voilà. Première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 8 à 22. Je vais demander à ma chère épouse de nous faire la lecture. Première épître de Jean. Chapitre 1, verset 8, au à 2, 2.
Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste, car il est, lui, victime d'expiation pour nos péchés. et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier.
Nous avons un défenseur, nous dit Jean. Si nous formions des petits cocons de sainteté, des petits groupes de saints, nous n'aurions pas besoin d'avoir un défenseur. Tout serait parfait, ça serait génial. Ben oui, mais ce n'est pas comme ça, nous le savons bien. Et au cas où nous douterions de nos défauts et de nos imperfections, la mort de Jésus sur la croix viendrait nous les rappeler. En effet, si Dieu a pris la peine, pensez-y, frères et sœurs, si Dieu a pris la peine en son Fils de plonger dans un tel abîme de rejet, de douleur, de souffrance, et même dans la mort, et quelle mort, c'est parce que notre situation est gravissime. Et elle ne l'est pas moins maintenant qu'au temps de Jésus. Il est mort sur la croix, torturé et exécuté, par des hommes pieux et aussi des hommes impies, par des juifs et des païens, par des faibles et des puissants. Mais c'est pour eux tous, qu'il a imploré le pardon du Père. Et c'est pour eux tous qu'il a vaincu la mort. Jésus le disait lui-même, il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors l'auteur de la première épître de Jean nous avertit. Ne nous prenons surtout pas pour des justes. Ce serait rien de moins qu'un mensonge. Toujours, nous le savons, nous résistons à l'Esprit Saint. Jean écrit pourtant qu'il est possible de suivre Jésus, qu'il est possible de vivre dans sa lumière. Il dit même, qui aime son frère demeure dans la lumière. Et Jean, dans son épître, ne se lasse pas d'appeler ses correspondants à aimer toujours plus, à aimer comme Jésus nous a aimés. C'est pas rien. Alors ce n'est pas pour que les gens à qui il écrit deviennent des modèles, mais c'est simplement, et il le dit très clairement, parce que Dieu nous a aimés le premier. Parce que Dieu est amour. Et cela, nous le savons, nous pouvons en être certains parce que il nous a effectivement aimé le premier dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, frères et sœurs, nous ne sommes pas. Non, nous ne sommes pas. Nous sommes des gens bien, sympathiques, etc. Mais nous ne sommes pas des modèles d'amour et de sainteté. Par contre, nous sommes témoins de l'amour de Dieu et de sa sainteté. Et ça, c'est formidable. Nous sommes témoins de l'amour de Dieu et de sa sainteté. Dans nos faiblesses, dans nos limites, nous annonçons, chacun à notre manière, avec les dons qui sont les nôtres, et tous très imparfaitement, le pardon et le salut du Seigneur. Nous sommes porteurs d'une espérance qui ne dépend pas de nous, sinon ça ne serait pas une espérance d'ailleurs. Nous sommes porteurs d'une espérance qui ne dépend pas de nous, mais qui se fonde sur une assurance que nous avons découverte par la foi. Nous avons un défenseur devant le Père, nous dit Jean. Nous avons un défenseur devant le Père. Non pas que notre Père céleste serait à redouter, bien entendu. Jésus nous révèle dans tout l'Évangile combien notre Père est tendresse. Mais nous avons cependant à craindre quelque chose, c'est de blesser son amour. Nous avons à craindre de le blesser. Or, figurez-vous que ces blessures, précisément, Jésus les a portées. Il est, lui, victime d'expiation pour nos péchés, nous dit Jean. Comment pourrions-nous encore sombrer alors dans des étroitesses, dans des jugements qui limiteraient le don de Dieu? Combien il serait confortable de s'estimer les seuls sauvés là ce matin ici, et de laisser les autres sombrer dans la perdition. Mais vous voyez que le Nouveau Testament nous interdit de mettre des limites à la grâce du Seigneur. L'apôtre Paul ne cesse de le dire. Par exemple, tiens, faut que tu me le mettes, s'il te plaît, voilà. Quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés. Nous étions ennemis de Dieu, nous aussi, et nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Non pas parce que nous avons fait, non pas parce que nous sommes des chic types et des dames charmantes, mais parce que il nous a réconciliés par sa grâce dans la mort de son Fils. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde, s'est offert pour nos péchés. Et la première lettre de Jean a cette phrase qu'il nous faut méditer, cette phrase puissante, extraordinaire. Il s'est offert pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Oh, la croix a cette puissance, mais aussi pour ceux du monde entier. Et puisque Dieu a tant aimé le monde, nul homme, nulle femme ne saurait donc être exclu de la sphère de notre témoignage et de l'amour du prochain. Alors ce n'est pas forcément confortable, hein, ce serait beaucoup plus confortable d'être dans notre petit îlot, voilà, notre petite oasis, mais c'est exactement ce que Jésus a vécu. C'est ce que Jésus a vécu en s'approchant particulièrement de ceux qui étaient rejetés à l'époque où il vivait. Nous allons lire ce que nous dit Jésus maintenant sur cette générosité de Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 1 à 9. Ça va rappeler quelque chose à ceux qui suivent mes études bibliques.
De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. » Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé et, faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et, montant et se développant, ils donnaient du fruit, et ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Et Jésus disait, « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. »
Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Jésus est venu justement nous parler de cette grâce du semeur, cette grâce qui nous donne en nous donnant une vie surabondante. Dans sa parabole, il nous laisse entrevoir qui est ce semeur. Le semeur de la parole, comme il l'expliquera plus tard. Alors, à quel semeur nous avons affaire ici ? Serait-il maladroit, bien peu professionnel, ce semeur, pour laisser comme ça tomber ses grains dans les épines, dans les cailloux, et pour ne pas avoir prévu d'épouvantail, où maintenant on a des canons, des farouchements, hein, des trucs là qui détonnent régulièrement, c'est très désagréable, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais enfin, des choses comme ça, pour faire fuir les oiseaux gourmands. À moins que sa technique de semaille soit inédite, cette technique de semaille en toutes directions, sur tous les terrains, soit volontaire. En tout cas, on peut être sûr que c'est volontairement que Jésus le décrit ainsi. Et ce n'est pas pour se moquer de lui. Jésus veut nous dire que ce semeur... que ce semeur est généreux. Parce que, comme on l'a dit, et comme le dit Paul dans ses épîtres plusieurs fois, la grâce surabonde. Belle expression. Dans l'évangile de Marc, alors, nous voyons cette grâce qui surabonde. Ceux qui suivent l'étude biblique s'en sont peut-être rendus compte. Nous suivons Jésus en Galilée, mais aussi en territoire païen. Nous voyons Jésus auprès de gens impurs ou possédés. Nous suivons Jésus qui soupire devant la souffrance du monde. Jésus qui est pris de pitié pour les pauvres, qui est miséricordieux pour les foules et qui regarde aussi le riche avec amour. Et quand Jésus annonce l'offrande de sa vie, dans l'évangile de Marc toujours, il déclare que son sang sera versé pour la multitude. Cette expression que nous remémorons quand nous célébrons la scène. La semence jetée à profusion par le semeur de la parabole n'est ni un accident, ni une erreur. Il faut, frères et sœurs, que ceux qui sont aux prises avec Satan, les petits oiseaux dans la parabole, que ceux qui sont aux prises avec Satan puissent recevoir la parole qui sauve. Il faut que ceux qui gisent dans la détresse reçoivent un germe d'espérance. Il faut que ceux qui sont accablés de soucis ou que ceux qui sont esclaves de leur richesse soient libérés par les fruits de l'esprit. Que feront-ils de ces fruits de l'esprit? Que feront-ils de cette semence de la parole? Que pourront-ils en faire? Nous ne savons pas. Ne savons pas toujours, ça les regarde quelque part. Mais le semeur sait pourquoi il agit ainsi. Il est capable, nous dit l'évangile, de Pierre même, de susciter des enfants à Abraham. Constatons, en écoutant cette parabole, que la parole, c'est-à-dire Jésus, le Christ, n'est pas venu tomber seulement dans la bonne terre. Tous reçoivent l'appel à fructifier en lui. Et heureusement, parce que ça nous concerne, oserions-nous prétendre que nous serions, nous, bons chrétiens rassemblés ce matin, le bon terrain, la terre fertile qui permettrait au grain de porter beaucoup de fruits? Figurez-vous que la première épître de Jean, que nous avons écoutée tout à l'heure, nous a rappelé le contraire. Si nous disons nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Elle n'est pas en nous. C'est donc précisément quand nous prétendons représenter la bonne terre que la semence du semeur ne nous a pas atteints. La parabole nous apprend que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Là où nous sommes, tels que nous sommes, même dans les situations les plus improbables. Telle est la volonté de notre Père. Et cette semence qui nous est donnée n'est jamais un grain sans espoir de germination. Jamais. Jésus, en parlant de lui-même, disait « Si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il porte du fruit en abondance. » Alors nous le savons, ce grain de blé a porté du fruit en abondance. Christ est ressuscité. Ce grain rejeté, détruit, étouffé, a porté les fruits pour la vie éternelle. Les grains ont rapporté, nous dit Jésus dans la parabole, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Encore l'abondance. Après l'abondance de la semence, l'abondance de la moisson. L'abondance des semailles qui jaillit de cette semence. Les rendements des grains semés dans la bonne terre sont incroyables. À l'époque de Jésus, dans d'excellentes conditions, le rendement était de combien?
En tout cas, pour
40, oh là là. Loin de ça, combien? 30?
Il dit 20.
20. T'es encore loin du compte. Dans le meilleur des cas, 7 pour 1. Parfois 10. Eh oui. Alors voyez, 7 pour 1. Pour les espèces actuelles de blé, alors j'ai demandé à mon beau-frère qui est agriculteur, enfin c'est plutôt Hélène qui a demandé à son frangin, pour les espèces actuelles de blé, soigneusement sélectionnées et dopées à l'azote, on ne dépasse guère 60 pour 1. Vous voyez, aujourd'hui. Alors ces considérations agricoles vous montrent simplement que les chiffres donnés par Jésus sont au-delà, largement au-delà de l'humainement possible, et particulièrement à l'époque où il parlait. Alors évidemment, encore une fois, de tels chiffres sont choisis intentionnellement. Ils forcent l'attention, ils forcent l'étonnement, ils ouvrent des oreilles pour entendre, comme dit Jésus. Comme on le dit, hein, c'est la pointe de la parabole, c'est ça qui fait réagir. Tandis que Jésus commence à rencontrer de l'hostilité, il accompagne l'annonce du royaume de cette espérance inimaginable. Bien sûr, les débuts de sa mission étaient, on ne peut plus, modestes. 12 disciples, des vagues pêcheurs, là autour de lui, quelques foules qui suivaient. Et plus tard, sur la croix, bien sûr, sa vie semblera vouée complètement à l'échec. Et ceux qui le suivaient auraient pu se décourager devant les obstacles. Et nous aussi, dans nos petites communautés chrétiennes comme la nôtre, avec leurs faiblesses, avec leurs difficultés aussi, à toucher la société, mais combien c'est difficile, combien c'est difficile dans nos régions de toucher les gens. Nous aussi, nous pourrions baisser les bras. Les angoisses et le désespoir de notre monde montrent aussi que beaucoup aujourd'hui, y compris parmi nous, s'attendent au pire, et pourtant non. Non et non, cette parabole nous interdit de rester pessimistes. En dépit de tout cela, en dépit de la voracité des corbeaux de Satan, en dépit des pierres du chemin ou des épines de l'oppression, demeure en Christ la promesse d'une moisson surabondante. Les rendements annoncés par Jésus sont miraculeux, au meilleur sens du terme. Hein, ils ne sont pas promis par un ingénieur agronome, c'est l'œuvre de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce. C'est le résultat de l'action bienfaisante, de l'action aimante de Dieu. Au petit début, au tout petit début, au commencement difficile, au cheminement exténuant, aux obstacles apparemment insurmontables, à la persévérance couronnée d'insuccès, succédera la joie de la récolte et le festin du royaume. Alors bien sûr, notre parabole s'applique dans un premier temps à l'existence de Jésus. L'évangile de Marc décrit le cheminement dramatique du Seigneur dans les tentations, les oppositions et jusqu'à la mort. Et puis finalement, c'est l'arbre de la croix qui révélera la présence du Fils de Dieu au cœur de ce monde de ténèbres. C'est l'arbre de la croix qui portera les semences de la vie nouvelle et le tombeau vide accompagné de l'annonce de la résurrection tout à la fin de l'évangile, suscitera les plus joyeuses espérances. L'Église primitive, pour laquelle était écrit cet évangile, a aussi grandi parmi les oppositions, comme je le dis dans l'étude biblique. L'évangile de Marc a été écrit probablement à la communauté de Rome, juste après la persécution de Néron. Persécution épouvantable, on ne peut pas imaginer autant de cruauté. C'est à ce moment-là qu'il a été écrit. Et pourtant, parmi ces oppositions, ces divisions, ces hésitations, ces persécutions, en quelques décennies, les fruits de la semence évangélique ont rempli le bassin méditerranéen. Miracle extraordinaire. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous le savons, l'Église de Jésus est répandue dans le monde entier. Dans certaines régions du monde, elle connaît encore une expansion formidable, il faut le savoir. Il y a des réveils encore aujourd'hui, et des réveils extraordinaires, même dans des situations très compliquées, comme en Iran par exemple. Et jamais l'Évangile n'a été autant traduit et diffusé, notamment grâce à Internet, qu'à notre époque. Jamais. Alors bien sûr, nos églises et nos sociétés occidentales restent moroses, mais reprenons confiance grâce aux paroles de Jésus. Le semeur, ce n'est pas nous. La semence, ce n'est pas nous. Et la croissance, elle ne dépend pas de nous. Quand Jésus explique sa parabole à ses disciples, il leur fait comprendre, un peu plus loin dans l'évangile de Marc, que nous pourrions être les terrains. Nous sommes des terrains, voilà ce que nous sommes. Les terrains où tombent les grains. Des terrains bons ou mauvais, des terrains encombrés de ronces, ou libérés, plus ou moins libérés, mais tous ces terrains sont destinés à recevoir le don de Dieu. Et le Seigneur le promet tout au long de sa parole dans la Bible, « Ma parole ne retourne pas vers moi sans résultat. » Tous sont touchés par la parole qui proclame la certitude d'une riche moisson, d'un avenir de fête, selon cette vision magnifique de l'Apocalypse, d'une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Jean nous dit que le maître de la moisson est fidèle et juste. Il nous dit que par son Fils, semé dans nos détresses, il nous pardonnera nos péchés. Crise et pandémie sont finalement le reflet de la situation normale, pas drôle mais normale, de l'Église en ce monde. Mais au milieu de tout cela, ce que nous savons, ce à quoi nous nous accrochons, c'est que Christ est vainqueur. Nous le croyons et nous le savons. Christ est la semence du monde nouveau et il est vivant, la semence de ce monde nouveau que nous attendons. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, parce que malgré tous les obstacles de notre cheminement terrestre, de notre cheminement personnel, de nos cheminements professionnels et de nos cheminements même en Église, dans tous ces obstacles, Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous portes, tu es le soleil et tu es l'eau vive qui fait grandir la moisson, tu es toi-même la semence au cœur du monde, la semence du monde nouveau. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous accueilles tels que nous sommes, que nous pouvons nous réfugier auprès de toi pour recevoir ton pardon, pour recevoir l'assurance de la vie éternelle, pour recevoir ta lumière. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui traverse les siècles, qui est encore notre nourriture aujourd'hui, Seigneur, et qui grandit, et qui est toujours, Seigneur, promesse de ta moisson. Seigneur, fortifie notre assurance, notre espérance, notre confiance en toi. Amen.